19h-20h, les informés des quartiers, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir chers amis auditeurs et auditrices, vous êtes les bienvenus pour commenter, analyser, décrypter l'actualité au sommaire de cette émission jusqu'à 20h. Nous allons ouvrir exceptionnellement l'antenne avec Pascal Boniface, le président fondateur, le directeur fondateur de l'Institut Léris, et géopolitologue également, qui reviendra sur un sujet concernant l'actualité et son billet d'humeur. Ensuite, après les débattants influenceurs qui sont prêts à s'emparer du micro, on reviendra sur l'imam qui s'est fait expulser, on reviendra évidemment. Tout s'est passé de façon très urgente. Hein. Grâce à quoi ? Grâce à la loi immigration. Eh bien, on reviendra sur ce sujet qui parfois eh bien, est clivant, mais aussi qui provoque une polémique. Le divorce entre, pardonnez-moi, Emmanuel Macron et puis les syndicats, donc je fais référence aux agriculteurs. Eh bien, ça chauffe. Autant dire que le salon de l'agriculture et son ouverture risquent d'être animés. Oui, clochette, effectivement. Accusation de chantage à la sextape au Sénat. Oui, ça revient et on en reparle avec notamment Gérard Larcher qui refait l'actualité. La situation à Gaza avec notamment, on reviendra sur la crise humanitaire, une véritable crise qui s'intensifie, mais également aussi, peut-on parler, les deux questions qu'on posera ici même, sans détour, peut-on parler d'un massacre ? Point d'interrogation. Peut-on parler d'un génocide ? Grand point d'interrogation. Ici même, et je vous le disais, la semaine prochaine, j'organise avec des pro-israéliens, des pro-palestiniens, ici même sur ce même plateau, pour tenter d'apporter, évidemment, du dialogue, un débat, et d'essayer d'avancer dans ce sujet qui parfois divise. Voilà le sujet, les sujets que je vous propose, les thématiques, mais vous aussi au 01 53 48 3000. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, et en toute liberté d'expression.
Les informés, les informés. Le quoi de neuf ?
Pascal Boniface, bonsoir mon cher Pascal Boniface. Quel plaisir de vous retrouver, vous savez. D'ailleurs, les auditeurs vous attendaient hier. Alors beaucoup vous attendent. Vous savez, comme quoi vous avez eu, ils sont très attentifs, nos auditeurs. Hein. Je vous jure, un rendez-vous, c'est un rendez-vous. Hein. J'ai eu beaucoup de messages des auditeurs qui m'ont dit, mais pourquoi Pascal Boniface n'est pas passé ? Vous vous rendez compte ? Ça rend des comptes d'un comme quoi c'est important.
Au standard, apparemment, oui.
On a eu un gros souci, on a eu un gros bug, effectivement, et j'en suis désolé auprès de nos auditeurs hier, y compris moi, hein, j'ai ouvert l'antenne et j'ai pas pu recevoir tous les auditeurs. Allez, je vous donne la parole, mon cher Pascal Boniface, pour votre billet d'humeur concernant le Quad 9. C'est parti.
Merci Adil, bonjour à tous. Demain, nous allons marquer le deuxième anniversaire du début de la guerre que la Russie a lancée contre l'Ukraine. Au début, on pensait que les Russes pourraient peut-être s'emparer rapidement de l'Ukraine, puis ensuite une contre-offensive. On pensait que les Russes allaient s'effondrer, puis en fait, on voit que là, il y a vraiment une sorte de ligne de front qui se maintient. Il y a un enlisement de la guerre, enfin un enlisement sur le terrain, parce que le nombre de morts continue toujours d'augmenter. Et en fait, on voit très bien qu'il sera très difficile pour les Russes d'aller beaucoup plus loin. Ils grignotent des positions, mais il est douteux qu'ils puissent parvenir à Kiev, mais il est encore plus douteux que les Ukrainiens arrivent à libérer les territoires qu'ils ont perdus depuis 2022, et plus encore, celui qu'ils ont perdu en 2014, à savoir la Crimée. Et c'est pour ça que la guerre va continuer, parce que Zelensky n'en démord pas, il ne veut pas négocier, il ne fera pas de paix tant qu'il n'a pas récupéré tous les territoires perdus, et tous les Occidentaux sont d'accord avec lui, sauf que c'est certainement souhaitable, mais malheureusement, on peut craindre que cela ne soit pas possible. Et on entend du fait beaucoup de gens qui disent « l'Ukraine se bat pour nous, il faut l'aider », et peut-être même pour renverser la situation, l'aider plus directement. On fournit des équipements, le problème c'est qu'il y a 4 fois moins d'Ukrainiens que de Russes, et qu'il faudrait peut-être donner un coup de main d'une autre façon à l'Ukraine, et donc s'engager militairement. C'est une petite musique que l'on entend de plus en plus, mais tout simplement, si les pays européens envoient les soldats ou s'ils frappent eux directement les Russes, ça sera tout simplement le début de la Troisième Guerre mondiale. Et donc, ce n'est pas vraiment raisonnable d'employer tout ça. Alors, effectivement, il y a une sorte d'enlisement sur le terrain du conflit. On ne peut pas aller très loin. C'est dommage, on n'ira pas chercher Poutine à Moscou pour le juger parce qu'il est protégé par son arme nucléaire. Et peut-être qu'on aura un scénario à la coréenne, pas de paix signée, mais la fin des combats, et peut-être aussi la fin des combats par épuisement des uns et des autres, parce que de plus en plus, y compris en Ukraine, les gens se lassent un peu, n'ont plus trop envie de mourir pour des causes qui paraissent un peu incertaines, parce que la guerre, quand elle s'éternise et que la victoire n'est pas en vue, devient de moins en moins supportable.
Excellent, mon cher Pascal Boniface. Je dois dire bravo, hein. Très très beau billet d'humeur, hein. Comme tous les autres billets d'humeur, celui-là, mais il m'a plu, celui-là, il m'a plu. Bravo. Bravo, mon cher Pascal Boniface, directeur fondateur de l'Institut Léris, mais également aussi géopolitologue. Je vous remercie, à la semaine prochaine.
Alors non, la semaine prochaine.
Ah oui, vous avez raison, vous avez raison, merci de nous prévenir. Oui. Qui vous remplace ?
Didier Billon, directeur adjoint de l'Iris.
Eh bien, bienvenue au directeur adjoint en attendant votre retour. Hein. Vous savez, on ne remplace pas comme ça Pascal Boniface. Hein.
Attention.
Eh, la signature, la patte de Pascal Boniface reste évidemment unique. Merci, on vous embrasse, mon cher Pascal Boniface.
À bientôt à tous.
À bientôt. C'est parti, le face-à-face.
Les informés. Les informés. Le face-à-face.
Le face-à-face avec Maître David Libeskind. Bonsoir.
Bonsoir, Adil.
Alors, vous allez m'expliquer ce soir ce qui s'est passé. Parce que moi, je veux comprendre. Vous êtes venu en chemise et en veste. Jamais je vous vois le dimanche. Vous êtes toujours en décontracte. Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, ce matin, j'étais à CNews, Morandini.
Ah, vous étiez chez Morandini, là? Ah,
donc j'ai fait un effort. J'ai fait un effort parce que je suis visible. Là, Beurre FM, je peux venir décontracter.
Parce que le mec, il vient toujours en normal, tu vois, en mode week-end, quoi.
Oui, mais bon, là, en fait, voilà.
David Libeskind, voilà. Notre avocat, là, il se lâche. Hein. Amine, ça faisait longtemps, Amine, ça.
Bah, très heureux d'être de retour.
Oui, l'élu de la Courneuve, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez disparu du paysage radiophonique.
J'avoue avoir fait une petite cure de désintoxication.
Bah, pas sur Twitter.
Vous en aviez besoin. Ouais, tiens, bravo, clochette.
C'est vrai, excellent.
Il est bon.
Je fais mon retour dans les médias chez vous, Adil Farkan.
D'ailleurs, vous êtes souvent chez Morandini Live aussi. Hein.
Ça m'arrive, mais j'avoue que ces derniers temps, je me suis un petit peu mis en retrait également.
Ah bon, mais je sais pas ce qui se passe, mais bon, faudra nous expliquer.
Dites-moi, vous êtes venu. Oui,
c'est ça. Vous êtes venu équipé là, dites donc, avec un. Le mec, il est équipé. J'ai l'impression que vraiment, allez le voir sur les réseaux sociaux. Je vous jure, c'est un vrai professionnel.
Il manque plus que l'attaché de presse.
Il a déjà son attaché de presse. Vous inquiétez pas pour lui. Il est bon, Amine.
C'est en off.
Un autre élu, les conseillers régionaux, l'écologie au centre, le co-porte-parole également.
National,
absolument. Et il arrive, il est en force, lui, toujours en costume. Tout le temps. Costume cravate, jamais. Et avec son pins, d'ailleurs.
La pins.
Même son véhicule, il y a le pins. Vous savez, le macaron. J'étais avec Maître David de Libeskind. Et vous savez, j'ai vu le macaron. On voit ça dans sa voiture.
Tiré à quatre épingles.
C'est ça. C'est la France.
C'est impressionnant. C'est impressionnant quand même, ça en jette.
Un peu, mais voilà, on a changé de quadrille sociale. C'est l'ascenseur social, c'était Chirac qui disait ça, c'est ça. L'ascenseur social. Maintenant, ça raconte un petit peu. Ouais. On mange plus des cailloux, mais des pâtes. Ouais, ça fait plaisir de passer de l'autre côté de la barrière. Ouais, attends, mais moi j'ai vécu dans une grotte. Moi, mes enfants, quand ils me disent mais que ça a été dur ta vie, je dis écoute, moi le matin, j'ai obligé de me battre avec des ours pour prendre mon petit déj. Imagine. Vous êtes là, mais vous rigolez. Mais je vous jure, c'est une image. Je vous assure.
Hey, moi, avec des ours.
Laisse-moi faire ma causette.
Il démarre le conseil régional, il a craqué.
C'est la réalité. Non, mais quand tu vois mon parcours. Non, Adil, blague à part. Ni je veux me la raconter, ni quoi que ce soit. Mon parcours.
Vous avez craqué, monsieur le conseiller régional.
On m'avait prédit un avenir sombre. J'étais dans la cité la plus pauvre de ma ville, qui était la plus pauvre du Val-de-Marne, qui était le département le plus pauvre de France. Oh, si tu veux, moi, les favelas à côté, c'est Beverly Hills. J'ai bac moins 3, tu vois.
Vous êtes un vrai autodidacte.
J'ai bac moins 3, je suis comme tapis.
Philippe, c'est quand les élections régionales.
Vous dites quelque chose? Tous les autodidactes ont réussi.
Mais parce qu'on a faim.
Vous avez remarqué, observez, hein. De Bill Gates en passant partout, toutes les grosses pointures sont tous des autodidactes. Ils ont un truc supplémentaire que nous on n'a pas.
Non, on l'a tous, mais il est peut-être plus développé parce qu'on
ne veut pas s'appuyer sur autre chose.
Non, ouais, c'est pas
on
ça.
On s'appuie là-dessus.
Non, mais Adil, on a connu l'extrême pauvreté. Et je suis pas là pour faire la causette, hein, pleurer, etc. On a connu l'extrême pauvreté et on ne veut plus revivre ça. Donc j'ai travaillé très dur, j'ai fait tout ce que les mecs ne voulaient pas faire jusqu'à en risquer ma vie pour pouvoir ne manquer de rien et offrir un avenir meilleur à mes enfants. Après, ce qui compte, c'est qu'ils soient le plus heureux possible. Ouais. Mais pour l'instant, ça se passe bien.
C'est ça, les informés des quartiers. Vous avez vu le vivier des quartiers populaires. Voilà, un bel exemple. Voilà, vous avez vu Amine Sall, l'élu de.
Et croyez en vous, moi je le dis.
L'élu de Orly. D'ailleurs aussi, David Libeskind, c'est vrai.
19e arrondissement à l'époque.
Oui, c'est vrai.
C'était un quartier populaire.
Populaire, effectivement. Même en plus, vous avez bourlingué dans les.
Voilà, mes parents n'avaient pas fait d'études.
Exactement, je sais que vous avez beaucoup souffert.
Mon père était maroquinier.
Maroquinier.
Voilà. Donc, j'ai fait des études.
Un rapport avec le Maroc.
Messieurs, nous allons démarrer, s'il vous plaît, sans tarder. Vous savez quoi, les 19h10 précisément. Gérard Darmanin, vous savez quoi? Eh bien, il s'est félicité. Il s'est félicité de quoi? De l'expulsion en urgence, messieurs. De l'imam Majoubi, qui a a été renvoyé, illico expresso, chez lui, en Tunisie. Parce qu'évidemment, ils considèrent qu'il a fait un dérapage. Alors, il a été expulsé, l'imam, c'est officiel. Qui veut prendre la parole en premier?
Comme vous voulez. Moi,
je
félicite Gérald Darmanin d'avoir mis en œuvre ce qu'il a dit. C'est très rare. Je le félicite de nous avoir débarrassé de
quelqu'un. Vous allez prendre des coups, vous parlez.
Alors, je vais me justifier. Je le félicite de nous avoir débarrassé quelqu'un qui porte, par ses propos, préjudice à toute la communauté musulmane. Et je pense que les musulmans.
Il y avait des débatteurs hier qui disaient le contraire. D'accord. Justement,
Ils ont le droit. Moi, je pense que les musulmans, ces dernières années, je crois que depuis le 11 septembre, ils ont pas mal morflé et ils morflent tous les quatre matins. Et ils ont pas besoin de fous furieux comme ça qui tiennent des propos complètement déplacés, qui portent atteinte à tous les musulmans et les musulmanes français, et d'ailleurs du monde, j'ai envie de dire.
Mais ils ne représentent pas la communauté musulmane.
Ils ne représentent pas, mais c'est un imam. Donc déjà, si tu veux, ça donne un certain poids. Et justement, les fachos se servent de ça pour pouvoir salir toute la communauté musulmane. Et maintenant, ça suffit. Et je crois qu'il faut réagir de manière ferme. La France, tu l'aimes ou tu la quittes, tu as le droit de la critiquer, certes, mais pas en France. Surtout quand tu profites du système social français, c'est pas possible.
Tu l'aimes ou tu la quittes.
Oui, mais on ne doit pas le laisser au Rassemblement National, ces termes-là. Le mot patriotisme, on ne doit pas le laisser au Rassemblement National. Moi, je suis français.
On va vous dire qu'hier, ça a fait débat. Hein.
Mais oui, moi, je suis français.
Il y avait des militants
français,
justement qui disaient le contraire de ce que vous dites.
Ouais,
ça fait débat, vraiment, oui. Ça fait débat.
Non, mais grâce à ces gens-là, le Front National, il est à 32%. Et grâce à ces gens-là, demain, le Front National sera au pouvoir et ils feront aucune différence. Moi, je te jure, franchement, je pense à tous nos compatriotes musulmans. Il y a 6 millions de musulmans en France. Si on avait des problèmes avec l'islam ou si on avait des problèmes avec les musulmans, personne ne serait en sécurité nulle part. Ce qui n'est pas vrai. Donc, leur argument, il est complètement bidon. Mais par contre, se dire, je dois être solidaire d'un type parce qu'il est musulman comme moi, alors qu'il fait des problèmes et qu'il dit des choses insensées, non, ça suffit.
Rien à voir.
0153483000, vous savez quoi,
le problème, c'est que la malgache,
je veux ouvrir l'antenne, je veux qu'on discute avec nos auditeurs. 0153483000, Solal vous attend et vous accueille à grand plaisir. Donc vraiment, partout en France, venez vous emparer du standard, parce que c'est un véritable sujet qui clive les amis. Vraiment, il divise beaucoup, beaucoup.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Aminsa, à l'entendant le standard.
Écoutez, Adil Farkan, moi, ce qui me surprend dans cette affaire, au-delà des propos, on va pas revenir là-dessus, on les a tous entendus, il y a les pour, il y a les contre, il y a ceux qui trouvent des circonstances atténuantes à ces propos. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas laissé l'occasion à cet homme qui manifestement, moi j'ai entendu ces interviews, il était plutôt dans une forme de regret en disant j'ai été mal compris.
Non mais attendez Aminsa, il a dit j'ai mal compris. Non, il a dit, il faisait référence à la CAN.
Oui, non,
le drapeau tricolore de la CAN et qui avait cette espèce de nationalisme qui gangrène.
Pourquoi je dis ça? En fait, il y a un
terme. C'est ce que vous expliquez hier, un débatteur.
Le terme principal dans son intervention, c'était de dire d'employer le mot tricolore. Il dit j'aurais dû employer le mot multicolore.
Hein.
Voilà, c'était principal parce que il y avait le drapeau qui était visé. On parlait de satanisme.
Est-ce qu'on peut
etc.
lui accorder ce doute?
Moi, je veux pas m'arrêter à ça. Ce que je dis, c'est que les ambitions d'un ministre de l'Intérieur qui suit un calendrier électoral, qui n'a pas caché ses ambitions pour l'élection présidentielle.
Non, mais surtout, c'est la loi de l'immigration là qui lui a permis ça.
Alors ça, je suis pas encore certain, mais on va laisser
le
professionnel du droit nous dire si oui ou non c'est grâce à cette loi, qui par ailleurs, je suis même pas sûr que les décrets d'application soient en œuvre, mais ça c'est autre chose. La réalité, c'est que vous avez un ministre qui, en 4 jours, a fait interpeller un homme, l'a mis en centre de rétention, l'a mis dans un avion pour l'expulser.
Et il se dit même
qu'il s'est déplacé lui-même de Paris à Nîmes pour signer l'arrêté ministériel d'expulsion.
Waouh.
On voit bien là qu'il y a une volonté de la part de Gérald Darmanin de surexposer cette affaire. Mais moi, ce que je veux surtout dire, oui, c'est que cet emballement médiatique, cet acharnement sur les réseaux sociaux et ces discours opportuniste de la part de la classe politique, il participe d'une chose, c'est à humilier encore une fois les musulmans de ce pays. Musulmans de ce pays en ont ras-le-bol.
Bon, on va en parler. On va en continuer d'en parler. Justement, ça divise, je vous le disais. Philippe Nadji, qui est radicalement, évidemment, d'accord avec Gérard Darmanin, la décision de Gérard Darmanin. Amin Saha, qui lui est très clair dans sa position. On va écouter celle de Maître David Libeskind dans une poignée de minutes. On marque juste la pause. Et puis, tous les auditeurs, il y a Abdel de Nogent. Ensuite, il y a Rafik de Rouet-Malmaison. Et puis, les autres, 01 53 48 3000. À tout de suite.
Les informés des quartiers reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés des quartiers, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Il est 19h20 précisément avec Maître David Libeskind, avec notamment Amin Saha, avec John qui est en retard. Il est coincé dans les bouchons, m'a-t-il dit. Et enfin, Philippe Nadjibouriaki et le standard au 01 53 48 3000. Avant de donner la parole à Abdel et à Rafik, on n'a pas entendu Maître David Libeskind. Maître David Libeskind, concernant cette expulsion. Alors justement, cet imam qui est expulsé.
Alors,
et il a dit lui-même, il a dit qu'il veut revenir en France.
D'accord, hein. Alors plusieurs aspects. Premier aspect concernant les propos qu'il a tenus. Donc les propos, parce qu'il n'y a pas que ces propos, après ils ont fouillé, etc. Et l'arrêté d'expulsion fait référence en fait à différentes périodes sur février où il aura également tenu des propos, disons, allez, discriminatoires à l'encontre des femmes et à l'encontre des juifs. Les propos qu'il a tenus sont contestables, ça veut dire qu'il n'avait pas à tenir ses propos. En revanche, et là c'est ça qui est important, la mesure qui a été prise à son encontre a été disproportionnée.
Disproportionnée.
C'est disproportionné.
Merci monsieur l'avocat de nous préciser
non, ça. Non, mais disproportionnée, pourquoi disproportionnée? Parce que il a 4 enfants, me semble-t-il. Il a une femme, il est en fait en France depuis les années 80. Et disproportionnée parce que, en fin de compte, justice n'a pas été rendue. C'est-à-dire comment, en fait, le ministre de l'Intérieur peut considérer de son propre chef, en analysant des propos, et l'expulser. C'est, pour moi, c'est une
alors qu'est-ce qu'il lui reste à faire, l'imam, alors?
Alors,
il a cette possibilité de faire...
Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, vite, rapidement, sur sa procédure d'expulsion, puisque le monsieur Darmanin se gaufre en disant que c'est grâce à la nouvelle loi immigration, ce qui est faux et vrai en même temps. Alors, pourquoi c'est faux? Parce que, en fin de compte, la nouvelle loi immigration a facilité les perquisitions au domicile d'une personne qui va être expulsée. C'est-à-dire, on lui notifie un arrêté, on a le droit d'aller dans son domicile, alors qu'avant, c'était plus contestable. Et pourquoi il a été expulsé aussi rapidement? C'est parce qu'ils ont saisi son passeport. Vous voyez? Donc, il n'y a pas besoin de laisser passer consulaire. Ils ont saisi son passeport, donc ils l'ont raccompagné dans l'avion, il avait son passeport, il n'y avait pas besoin de laisser, laisser passer consulaire en Tunisie. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Il y a eu, en fait, c'est sur ça qu'on a envie de savoir.
Voilà, son avocat, en fait, a saisi la juridiction des référés, c'est-à-dire en urgence, un référé liberté.
Ah oui, donc, c'est vrai, le référent
voilà,
en urgence, oui.
Voilà, qui devrait statuer, je pense, soit ce soir ou soit en début de semaine prochaine, pour savoir, en fin de compte, si la mesure qui a été prise ne viole pas, en fait, des textes. Hein, et à partir de là, si elle veut des textes, il aura le droit de revenir.
Donc là, il y a eu les décisions administratives, maintenant il va y avoir les décisions judiciaires.
Administrative, voilà. Non, oui, il y a une. Oui, tout à fait, il va y avoir en fait un.
Bah si, quand je vous écoute parler,
oui,
c'est
tout à fait.
Ça.
La juridiction administrative. Non, mais c'est un référé, c'est en urgence. C'est-à-dire que la juridiction des référés ne statue pas sur le fond des propos. Hein, d'accord? C'est juste un référé liberté. Ensuite, bon, il y a une possibilité de recours devant le Conseil d'État. Mais en fait, ce qui est quand même incroyable, c'est que cet homme n'a pas. Moi, en tant qu'avocat, ça me choque, évidemment, même si la procédure qui est suivie me paraît conforme, c'est que ce monsieur n'a pas eu l'occasion de s'expliquer devant un magistrat, devant un juge. Il n'a pas eu de débat.
Oui, c'est vrai, on est dans un pays de règles quand même, non?
Voilà, on est dans
Philippe,
un.
Oui, voilà. C'est vrai. On est quand même dans un pays où régit quand même un certain nombre de choses. On ne peut pas considérer.
Il n'y a pas de débat contradictoire.
Non, mais merci pour cet éclairage, Maître David Libeskind. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a. Moi, ça me permet de mieux poser le cadre. Parce que. On est en France quand même. Hein.
Évidemment.
Voilà, on n'est pas quand même dans un pays où...
On est dans un état de droit.
Ta tête me plaît pas, je te vire, quoi.
On est dans un état de droit. Et c'est vrai que sur le fond, ça me gêne un petit peu. Parce que, effectivement, moi, je suis très attaché à la présomption d'innocence, au débat contradictoire. Ça, c'est
bah, apparemment, il n'y avait pas d'antécédent. Hein. Il n'a pas été condamné, finalement.
Sur la forme, effectivement, moi, je dis j'approuve. Parce que j'ai écouté et j'ai eu en ma possession plusieurs dialogues qui... parce que en face, lorsque t'as des gens qui sont expérimentés, bon, bah ils peuvent faire la part des choses. Mais lorsque si t'as des gens non expérimentés, des gens fragiles, ils peuvent très mal interpréter les propos qui ont été tenus par cet imam. Et donc, je le dis, on est à une dizaine de jours maintenant d'une période importante pour les musulmans, qui est un des 5 piliers de l'islam, qui est la période de jeûne de Ramadan. Et ils vont être encore une fois. Et j'en ai marre. Que les musulmans de France soient la cible facile de l'extrême droite qui aujourd'hui donne le la de la vie politique.
Ouais. Amin ça. Et ensuite après je vais aller accueillir Abdel, Rafik, Rafil dans l'ordre et ensuite Abdel et ensuite Tamim du 31. Bon, peut-être Toulouse.
Très brièvement Adil Farkan parce que je voudrais pas que mon propos soit mal compris. Il ne s'agit ni de défendre cet homme ni au contraire de l'enfoncer. Il s'agit de dire que est-ce que les règles ont été respectées d'une part, et c'est ce que disait notre avocat de plateau, mais surtout, surtout, essayez de comprendre pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. Pourquoi est-ce qu'un homme qui est manifestement candidat à l'élection présidentielle use de son pouvoir.
Encore. C'est pas officiel.
Oui, enfin, on peut le deviner.
C'est pas officiel. Attendez, il l'a pas déclaré.
Il y a eu quelques lapsus.
Oui, mais il l'a pas déclaré.
Il n'y a pas de parti qui le soutient. Hein.
Mais surtout,
ça va venir.
Surtout, c'est le deux poids deux mesures, moi, qui me gêne dans cette affaire. C'est-à-dire que des religieux qui portent, qui tiennent des propos scandaleux, de haine, parfois, qui injurient la France, il y en a de tous les bords.
De
tous les bords.
Vous confirmez?
Je confirme.
Vous les avez entendus?
Vous les avez vus et entendus. Ils sévissent sur les réseaux sociaux. Vous savez, vous me connaissez, je suis un consommateur avéré.
Vous êtes un influenceur sur les réseaux sociaux.
Et donc, je peux vous dire que je vois passer des vidéos de religieux de tous bords, notamment des imams, mais aussi des rabbins, aussi des curés, qui tiennent des propos qui sont, à mon sens, tout aussi répréhensibles. Et je n'ai pas vu le ministre de l'Intérieur s'agiter sur la scène politique pour dire en quelques jours qu'il faut expulser.
S'il vous plaît, je voudrais juste entendre nos auditeurs parce que c'est aussi ça les informés des quartiers. Rafik de Rueil-Malmaison, bonsoir Rafik.
Bonsoir mon cher Adil.
Bonsoir, bienvenue, ça fait longtemps Rafik.
Oui,
Rafik, tu me manques.
Regardez ce qu'il vous dit l'avocat. Il vous dit vous lui manquez.
Ouais, je le voyais le vendredi.
Parallèlement, et je pense que je viendrai très prochainement mon cher Adil.
Alors on vous écoute Rafik.
Alors, salutations à tout le monde. Moi, je voudrais juste noter que c'est pas le premier cas. Il y a énormément d'imams qui ont été expulsés récemment, mais que sauf que c'est un cas qui donne le plus de je veux dire, qui est le plus commenté. Je peux en témoigner en tant qu'élu local à Rueil-Malmaison. Un des imams, parce qu'il y a, on a plusieurs imams dans le centre culturel musulman de Rueil, a été aussi expulsé
par
Darmanin.
Pour les mêmes raisons.
Plus ou moins pour les mêmes raisons, plus ou moins pour radicalisme. Mais chose qu'on ne savait pas, et qu'on fait confiance à la justice de ce pays qui a des éléments. Mais je dis, en faisant une petite analyse sur le compte Twitter de Gérald Darmanin, à un certain moment, on voyait vraiment toutes les expulsions, et ça partait à une vitesse, ça débitait vraiment beaucoup. Est-ce que c'est pour donner rendez-vous électoraliste? Est-ce que pour montrer qu'il est sévère, qu'il laisse pas vraiment la balle pour l'extrême droite, sachant que nous luttons tous contre les extrémistes? Donc je me dis, c'est une politique politicienne qui est la sienne, et que il faudrait peut-être reconcentrer le débat sur l'humain, c'est-à-dire nous luttons contre les extrémistes, il n'y a aucun souci, comme il a si bien dit Amine, de tous bords, mais vraiment de tous bords, que ce soit des juifs, des musulmans, des chrétiens, et que on reconcentre sur l'humain, c'est-à-dire quand il y a des expulsions, il faut pas les faire franchement comme ça a été le cas. On en voit bien que il a des enfants, ça s'est passé devant ses enfants avec des méthodes un petit peu très très fortes. C'était la même chose pour l'imam de Rueil-Malmaison. Il avait un enfant en très bas âge qui est marié à une Française, qu'il a laissé. Donc je me dis, il y a vraiment l'humain, il faudrait reconcentrer le débat sur l'humain.
Non mais attendez, avant l'humain, il y a d'abord une chose qui a été rappelée par notre avocat Maître David Libeskind, qui est très importante, mon cher élu, mon cher Rafik, c'est l'état de droit. C'est ça qui est important, c'est ça que je regarde moi avant tout. Et je remercie Maître Libeskind de nous avoir rappelé, évidemment, ces éléments de règle. Eh oui.
Merci.
Au plaisir,
merci
Rafik.
À vous, en tout cas. Merci. Au plaisir, au revoir.
Bonne à très vite. Abdel de Nogent-sur-Oise, je sais pas. Abdel, bonsoir Abdel.
Bonsoir Adil.
Bonsoir. Bienvenue, on vous écoute mon cher Abdel.
Bonsoir. Donc moi j'ai appelé hier Adil déjà.
Mais bienvenue, vous pouvez nous appeler autant de fois que vous voulez, il n'y a aucun problème, vous êtes toujours le bienvenu.
Non mais j'ai un rituel, dès que je monte dans ma voiture, j'allume la radio.
Vous allez bien, vous êtes très nombreux comme ça. Vous savez que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, hein, grâce à vous, vous savez, la famille des informés elle est très très grande maintenant.
Et ben, c'est très bien. Mais à chaque fois, certains sujets... j'en perds mes cheveux que j'ai pu, mais voilà.
Ouais. Récupérer vos cheveux quand même.
Ça peut servir. Ah, c'est pas mal, Abdel, c'est pas mal. Ouais, ça peut servir, effectivement. On vous écoute, Abdel, on vous écoute.
Alors, moi, hier, j'intervenais où je disais que cet imam, pour moi, il n'avait rien fait de mal, que ses propos ne me choquaient pas hein, quand il parlait de drapeau tricolore. Pour
ça,
moi,
c'est Philippe l'a dit,
c'était un défaut de langage et que c'était pas forcément. Il ne voulait pas forcément viser la France. Après, aujourd'hui, je veux nuancer. Je sais.
Dites donc, rétro-pédalage ou quoi, mon cher Abdel?
Non, absolument pas, vous allez voir. Nuancer sur l'expulsion. Donc, je ne sais pas. Apparemment, ils auraient trouvé des choses que moi, je n'ai pas vues. Donc, je ne peux pas dire. Donc, s'il y a eu des choses qui ont été dites et des prêches un peu virulents sur dans la mosquée où il prêche, ça je ne sais pas. Mais pour moi, par rapport à cette dernière vidéo, pour moi, il n'y avait rien de choquant. Aujourd'hui, pour moi, Monsieur Darmanin, il est en train de se redorer le.
Ça choque l'élu régional.
Ah non, ça, mais en quoi ça choque?
Vous avez entendu l'élu régional, hein, Monsieur Najib Bouriaki?
Non, mais il faut arrêter. Aujourd'hui, il y a une cible, c'est les musulmans. Tout le monde veut se redorer le blason. Tout le monde veut se faire une image sur le musulman du coin. Ouais. Aujourd'hui, si ça avait été un traître pédophile, vous auriez vu que ça aurait duré 6 mois et qu'il n'y a absolument rien eu. Aujourd'hui, voilà, de par Dieu, on a oublié. Tout le monde l'a couvert. Sarko, multirécidiviste, personne n'en parle. Aujourd'hui, par contre, il y a un musulman qui dit un mot de travers, on lui tape dessus.
Vous avez l'intime conviction de ça?
Mais absolument.
Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, maître David Libeskind?
Non, non.
Juste pour finir ça. Juste
allez-y,
finir,
allez-y, comme ça, je vous libère.
Quand quelqu'un qui dit la France, tu l'aimes ou tu la quittes? Mais absolument pas. Je répète ce que j'ai dit hier. Moi, la France, je l'aime pas. La France d'aujourd'hui, je ne l'aime pas. Je suis français. Bah, et qu'on vienne me dire, non, je reste.
Va-t'en, si t'aimes pas.
Mais non, mais
non, mais attends, je comprends pas, c'est du masochisme.
Mais il a dit pourquoi vous le tutoyez, il a dit. Mais Philippe Nadibo avec lui.
Parce qu'on est républicain, c'est ça, c'est
non,
la France.
Non,
mais je veux pas le vous voyez, moi.
Mais si, Philippe,
pas, bah non, c'est son droit. Il peut vous voyez, c'est son droit et je respecte son droit. Moi, je veux le tutoyer.
Attendez,
mais non, j'ai le droit de le tutoyer, c'est républicain.
Non, non, non.
Le vouvoiement, ça a été inventé par les aristocrates et la bourgeoisie pour se séparer avec le peuple.
Abdel, je comprends sa logique à Abdel. Abdel, il dit avant la France, elle a changé.
Et bien, c'est pas la France d'aujourd'hui,
la France des extrêmes, j'en veux pas. Il a le droit de dire ça.
Il a dit, je l'aime pas.
Et même sur votre radio, c'est pas possible. Vous ne tutoyez pas les gens comme si on avait élevé le cochon.
Vous n'en avez pas.
Non, vous avez raison.
On n'a pas élevé le cochon, les agneaux, peut-être.
Moi, je suis le premier.
Vous n'en avez pas.
Moi, Abdel, vous avez.
Abdel, je le vois.
Attendez. Il vous voit. Moi, Abdel.
Vous n'en avez pas.
Moi, Abdel, je vous vois. Tout le monde. Même ceux qui me tutoient, je les vous vois.
Vous un accident.
C'est la moindre des politiques.
Moi, par exemple, il y a des auditeurs qui me tutoient. Moi, ça me gêne pas de me tutoyer. S'il y a des auditeurs qui me tutoient, moi, ça me gêne pas. Bon. Mais par contre, je les vous vois.
Vas-y, Abdel, on t'écoute.
Ils vous voient maintenant, ils vous voient désormais. Allez-y.
Moi, je suis né français. J'ai grandi en France. J'ai des origines comme certains. Il n'y a pas de problème. Mais écoutez, monsieur, moi, aujourd'hui, la France dans laquelle je vis, je l'ai aimée, hein, mais la France dans laquelle je vis aujourd'hui, elle ne me plaît pas. Mais je vais pas la quitter.
Il y a une différence, elle ne me plaît pas et je ne l'aime pas. Abdel, vous voyez bien que vous avez changé là en deux secondes.
Il y a allocation familiale ni quoi que ce soit.
Abdel, vous voyez bien que vous avez changé. Abdel, on fait un débat ou pas? Abdel, on fait un débat ou pas? Bon, il n'y a pas de débat, vas-y.
Le débat, c'est aussi ça.
Non, il faut laisser parler, parce que sinon on ne va pas y arriver.
Pour rebondir.
En tout cas, non, mais c'est bien s'il a changé. Non, mais il a évolué, il a dit, elle ne me plaît pas.
C'est différent. Là, c'est différent.
Non, mais c'est bien.
Aussi, elle ne me plaît pas dans l'état dans lequel elle est. On est d'accord.
Moi, je sens Abdel qui est plutôt réfléchi.
Même propos que j'ai dit hier. Adil, écoutez, moi j'ai vécu en France, j'ai grandi en France, j'ai visité d'autres pays. Aujourd'hui, je visite encore
d'autres
pays. Il y a une semaine, j'étais en Côte d'Ivoire. Et certains aujourd'hui, et je rencontre des clients français qui sont basés en Côte d'Ivoire. Mais franchement, ils me disent aujourd'hui, vous vivez dans un climat morbide en France.
Ouais, mais tout le monde le pense en plus.
Mais on est d'accord. Tout le monde le pense. Non, mais sur le constat, on est d'accord, Abdel.
Bon, c'est bien, Abdel. Philippe Ladji-Boyaki est d'accord avec vous. Donc c'est bien. Voilà, il est d'accord avec votre constat. Abdel, le standard explose dans tous les sens. Je vous libère.
Excusez-moi, je suis passionné, donc c'est pour ça que
vous avez raison d'être passionné.
C'est bien.
C'est le lieu les informer.
Bon, à bientôt, Abdel.
Tamim. Il vous dit à moi. Tamim, de Toulouse, non, Tamim?
Oui, je suis Toulouse, ouais.
Allez, bienvenue, on vous écoute, mon cher Tamim.
Écoutez, bonsoir à tout le monde.
Vous avez exactement 40 secondes, parce qu'après, on lance la pause.
Bonsoir, eh ben voilà, il n'y a pas de souci. Bonsoir à tout le monde. Je vais envoyer un message à tout le monde. Arrêtez de chamailler pour des miettes. Parce que nous, voilà, nous, sur terrain, on ne vaut rien. D'accord? C'est les gens qui décident. Les grosses têtes qui décident. D'accord?
Je suis content qu'il dise ça parce que ça, c'est le peuple qui s'empare de la parole et dit on souffre. C'est ça son message. Vous avez raison, Tamim. C'est la souffrance. Vous parlez d'une souffrance.
Voilà, on parle de la souffrance, mais arrêtez. Il faut qu'on trouve des solutions. C'est tout.
Vous entendez ça, maître Libeskind? La souffrance de Tamim?
Il faut qu'on trouve des solutions. Parce que de chamailler sur des trucs de A à Z, des miettes, un petit peu, c'est même pas la peine. Franchement, c'est même pas la peine.
Vous avez raison de nous rappeler un certain nombre de choses, Tamim.
Mais après,
merci à vous.
Franchement,
mais
c'est la première fois que j'appelle.
Vous êtes la première fois, fois. C'est très bien. Je suis très content.
Je vous écoute, ça fait 4 ans ou 5 ans. Mais j'ai jamais osé d'appeler.
Eh ben, ça me fait plaisir. Vous savez quoi? Vous revenez quand vous voulez, Tamim. Vous avez raison, Tamim, de rappeler. Vous savez pourquoi? Parce que, regardez, tout le monde est d'accord avec vous. Et Maître David veut vous répondre. Et ensuite, Tamim.
Voilà, moi, rapidement. Mais en fait, moi, je suis très attaché à la liberté d'expression. Et c'est quand même choquant qu'on considère qu'une personne, quand bien même elle soit étrangère, qu'elle n'a pas le droit de dire « je n'aime pas la France ». Moi j'aime la France, bon je suis français, mais pourquoi on va la condamner parce qu'elle dit en fait oui. sur un prêt « je n'aime pas la France ». Mais est-ce, oui. ça vous choque non, pas en fait
vrai, mais
ça vous
choque pas. Je peux la
condamner. Ça me choque, on dit « je n'aime pas la France ».
On n'a pas le droit de dire « j'aime pas la France ».
Non, tu as le droit de dire que l'état de la France aujourd'hui ne me plaît pas, et ça c'est légitime.
Non,
je n'aime pas l'état dans laquelle...
Qu'une personne dise je n'aime pas la France parce que la France a évolué, hein. comme disait l'auditeur, en fin de compte, il souffre, donc il souffre.
Allez Abdel, merci Tamim. Tamim, je vous libère. Je vous libère Tamim, mais vous revenez quand vous voulez, d'accord?
Je vous remercie.
Pause et on se retrouve. Très intéressant l'échange que vous venez. Non mais attendez. Amine, il faut l'entendre ça. D'un côté, il dit on peut dire j'aime pas la France. De l'autre, il dit non, vous n'avez pas le droit de dire ça. Je voudrais vous entendre, Amine, aussi.
Là, tout de suite?
Non, juste après la pause. Et on a Fatima de Paris, Mohamed.
Alors, vous m'entendrez.
0153 48 3000, à tout de suite.
Les informés des quartiers reviennent dans un instant. 19h, 20h. Les informés des quartiers, présentés par Adil Farkan sur Beur FM.
Avec Amine Sa, avec Philippe Djiboyaki, débat très animé avec Maître David Libeski. Et j'accueille d'ailleurs John.
Ouais.
John, l'influenceur des Gilets jaunes. Bonsoir, John.
Salut, merci, désolé.
J'étais avec les agriculteurs,
en fait, on était sur TikTok. Écoute, ils ont bloqué tout le quartier Beaugrenelle, là, quand je suis parti.
C'est chaud, hein.
Ils voulaient pas lâcher, ils voulaient aller au salon d'agriculture, ils les ont menacés de les embarquer, ils ont pas cédé. Et au final, là, ils sont montés sur les tracteurs, ils ont fait genre, ouais, on va aller au périph. Et ils ont dit, bah, s'ils veulent qu'on aille au périph, on va aller au périph, mais on va bloquer le périph.
Eh ben, on en reparlera dans une poignée de minutes. Justement, John, je voudrais vous donner la parole. Vous savez quoi, sur l'expulsion de l'imam? On parlera de tout ça. La France, je l'aime ou je la quitte. Il y a ça aussi. Il y a David qui dit oui, mais attends, on peut ne pas aimer la France, mais en même temps, etc. Philippe qui dit non, pop, quelle horreur. La France, il faut l'aimer, il faut l'adhérer. Sinon, quel intérêt de rester ici? Bon, ça se discute. Amine, vous dites quoi?
Bah, d'abord, du point de vue du droit, moi je suis plutôt de l'avis de notre avocat de plateau, c'est de dire on peut ne pas aimer la France. Maintenant, dans la bouche d'Abdel, notre auditeur, le « j'aime pas la France ».
Il n'a pas dit « j'aime », il s'est corrigé, il a dit.
Non, il a dit d'abord « je n'aime pas cette France ».
Cette France, voilà.
Cette France, parce, en référence à ce qu'elle est en train de devenir dans le climat délétère que l'on connaît. Et je peux comprendre. Ensuite, il a évolué en disant, en gros, cette France là que je constate aujourd'hui, dans laquelle je vis, elle ne me plaît pas.
Elle me plaît pas.
Et je pense que, au contraire, on se doit en tant que Français l'autocritique, notamment pour faire avancer notre pays. Si on veut qu'il avance, il faut qu'on puisse le critiquer. Donc, je rejoins plutôt Abdel dans cette démarche là, même si dans son expression peut-être que il a pu laisser entendre qu'il était anti-français, mais je pense pas que ce soit le cas.
Non. Ensuite, franchement, on l'a pas compris comme ça.
Je voudrais répondre.
Moi, comme ça.
Non, mais des auditeurs pourraient l'entendre comme ça et ce serait tout à fait normal.
En tout cas, sur la première intervention.
Mais il a eu l'occasion de rectifier.
Il a rectifié, il a dit. Je reprends ce
Merci
que j'ai
Abdel.
Dit.
Maintenant, sur Rafik a posé une question tout à l'heure très intéressante. Il a dit des expulsions d'imams, il y en a eu de nombreuses et elles n'ont pas fait grand bruit. Alors, évidemment, Gérald Darmanin avait fait des tweets tous les 4 matins pour dire j'ai expulsé lui. Bon, ça n'a pas fait grand bruit à ce moment-là. Et il est évident qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation, la Macronie s'est rendu compte que depuis 7 ans, ils ont fait en sorte, ils ont créé les conditions d'une progression fulgurante de l'extrême droite. Et on l'a vu récemment, le président de la République qui nous explique que le Rassemblement National ne fait pas partie de l'arc républicain. Et aujourd'hui, Gérald Darmanin qui reprend quelque part les sujets de l'extrême droite à son compte pour quelque part leur obstruer le chemin. Donc c'est politique, c'est électoraliste, rien d'autre. Et ce sont encore une fois les musulmans qui en font les frais.
Bon, alors justement, je ferai un tour de table. John, l'influenceur des Gilets jaunes. Alors, vous dites quoi, vous?
Pour répondre à ce que dit le monsieur, j'ai oublié son nom.
Amine.
En fait, c'est simple. Moi, je remarque que depuis quelques temps, la France est dans un climat islamophobe. Moi, je suis pas musulman, mais j'ai beaucoup de gens autour de moi qui le sont. Et même quand je parle avec des gens qui sont issus de la communauté musulmane, ils me disent, en fait, on n'est pas chez nous parce qu'on nous déteste.
Et quand ils sont pas chez nous, c'est des Français. Hein.
Oui, oui, ils sont Français. D'accord. Et quand on va dans notre pays d'origine, on nous dit qu'on n'est pas non plus du pays d'origine. Maintenant, le problème, il est simple. On est dans un climat anxiogène où les Européens arrivent à grands pas et ce qu'on veut, c'est faire peur en montrant les musulmans du doigt.
Comme ça a toujours existé, ça.
Ouais, mais oui. Là,
l'islam, ça ne date pas d'aujourd'hui, l'islam. On dirait qu'on découvre.
Là, ils arrivent.
On a toujours tapé sur l'islam depuis déjà.
Depuis 2000 ans.
C'est amplifié, si tu veux. C'est amplifié, si tu veux, c'est amplifié depuis quelques années, là.
J'étais quand même quelques années. Déjà parlé de ça.
C'est amplifié.
Sauf s'il a raison, John. Voilà, merci.
Donc maintenant.
Ça s'est amplifié.
Donc maintenant, on a toutes sortes de personnes qui prêchent la haine sur les réseaux sociaux. On a aussi, comme je disais tout à l'heure en antenne, il y a le rabbin de Créteil qui fait des prêches très dégradants envers la France, qui clairement
très anti-républicain,
anti-républicain, anti-France. Et ce monsieur-là, on va pas l'embêter, tu vois. Donc quand tu expulses quelqu'un qui a peut-être eu des propos, je sais pas, j'ai pas entendu, envers un pays et qui a été expulsé peut-être à juste raison ou pas, j'en sais rien, je peux pas le dire. Bah en
personne
fait, il faut être exemplaire. C'est-à-dire que on peut pas juste virer un imam musulman et laisser un catholique ou un juif inciter à la haine. Tu vois, il faut, si ce monsieur il est israélien, faut l'expulser, tu vois. C'est aussi simple que ça, en fait.
Vous réclamez.
Il faut l'égalité
en matière
pour tous,
de,
en fait.
En matière de droit.
L'égalité, c'est
on a un avocat, ça tombe bien. Mais attendez. Justement, je voudrais que vous nous apportiez un éclairage là-dessus. Voilà. Par exemple, John nous cite qu'il y a, alors moi je sais pas, je n'ai pas vu la vidéo, encore une fois, je ne veux pas. Pas de diffamation.
Voilà. En fait, on n'a pas vu la vidéo du rabbin de Créteil, donc voilà.
C'est pour ça que soyons prudents. Moi, je veux être prudent. En tout cas, c'est mon rôle d'être prudent. Je veux, encore une fois, évidemment.
Je suis pas sûr qu'il est rabbin à Créteil.
En tout cas, il est rabbin.
C'est pour ça que je dis, la prudence est de mise. Moi, c'est mon rôle.
Quand tu vis une image,
attendez, laissez-le répondre. Laissez-le répondre, s'il vous plaît. Maître David Lubetzky.
Effectivement, il a tenu des propos offensants envers la France, en tout cas, ou les valeurs républicaines. Il ne pourra pas être expulsé parce que les rabbins, généralement, sont français. Ils ont la double nationalité française et israélienne.
Et on ne peut pas lui enlever la nationalité française pour ça.
Il faut être déchu de la nationalité française et
c'est très complexe.
Ça n'existe pas encore.
Okay, donc en revanche, le fait d'être français,
tu as parfaitement raison.
Attendez, s'il vous plaît.
Que ce soit un rabbin, que ce soit un curé, que ce soit un imam, ou même d'ailleurs une personne lambda, hein, parce que là on est dans la connotation religieuse, dans un contexte religieux, mais ça peut être une personne lambda. Effectivement, il faut qu'il y ait un traitement qui soit égal pour
bien
tous.
Sûr. Et liberté, égalité, là,
non, mais c'est bien de l'entendre dans la bouche de Maître David Lubetzky.
Et là, il faut dire, moi, depuis les années 80, effectivement, les musulmans sont stigmatisés à cause de...
Ah, j'aime bien, c'est Maître Lubetzky qui dit ça.
Non, mais si, c'est vrai.
Non, mais
c'est une réalité.
La résonance n'est pas la même chose si c'est Amine Saïd qui me dit.
Oui, évidemment.
Ou Philippe Lady Bar.
Ils font l'objet de discrimination et vous êtes plutôt partagé.
Ils font l'objet de discrimination.
Non, mais c'est vrai. Excusez-moi, Amine Saïd.
Je voudrais apporter à
Amine. Non, mais moi, je m'appelle Hervé de Montbrelon et je le dis aussi.
Moi, je suis avocat. Je vois bien.
Tout vous, d'ailleurs.
Je vois bien. Moi, je vois bien dans le traitement, par exemple, pour la justice pénale, je vois bien dans le traitement quotidien de mes affaires qu'une personne, bien qu'elle soit française, qui a un nom maghrébin, est traité différemment que Henri Martin, qui est cadre à L'Oréal, etc.
Volontairement ou involontairement.
Attendez, c'est important. Est-ce que vous êtes factuel lorsque vous dites Maître David Lubetzky, lorsque vous nous dites là, dans ce micro, dans les informés, vous dites que depuis les années 80, vous avez.
Bien sûr.
C'est pas un sentiment. Vous dites que les musulmans, les Français de confession musulmane sont stigmatisés. Comme le dit John.
Moi, j'ai vécu en fait dans le 19e arrondissement de Paris, qui est le quartier en fait où il y a le plus de juifs et de maghrébins et de personnes d'origine maghrébine. Ouais, et moi voilà, donc j'ai été confronté à des copains maghrébins, à des copains juifs, etc. Et moi j'ai bien vu qu'ils étaient stigmatisés. C'est pas du tout un mythe. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème en France, tant que les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, ne reconnaîtront pas que les personnes d'origine maghrébine, qu'ils soient français ou étrangers, font l'objet de discrimination dans l'accès à l'emploi, dans l'accès au logement, etc., on ne s'en sortira pas.
Philippe Ladiboyaki, l'élu régional.
Alors, deux choses.
Après Amine Saïd, ensuite John. Et je veux qu'on parle de la crise des agriculteurs.
Important. Deux choses. L'imam qui a été expulsé, il n'a pas été expulsé parce qu'il était imam, il a été expulsé parce qu'il est étranger. Voilà, ça c'est un premier point. parce que
avec une carte de résident quand même.
Non mais peu importe, mais il n'est pas français.
Oui,
il donc il a été expulsé parce que étranger.
Il avait une carte.
Donc, si le rabbin en question n'est pas français et qu'il est israélien, il est étranger, il doit avoir le même traitement. Il y a pas de discussion là-dessus.
Je vous ai pas interrompu, messieurs. Je n'interromps jamais.
Écoutez quand les autres y parlent parce que c'est un débat éclairé. Deuxièmement, dans les années 80, c'était pas les musulmans qui étaient stigmatisés, c'était les arabo-maghrébins qui étaient stigmatisés. Et depuis, malheureusement, le 11 septembre.
Non, depuis c'est avant. Bien
non,
avant.
Non. Écoute, je peux te dire, je suis complètement concerné.
Continue.
Je veux qu'on parle. Dans les années 80, on ne ciblait pas les musulmans, on ciblait les arabes maghrébins. C'est ça. La marche pour l'égalité, le découlement des racismes avec le hold-up qu'ils ont fait, on le connaît. Il y avait des ratonnades, c'était pas parce qu'ils étaient musulmans, c'est parce qu'ils étaient arabes musulmans. Et ça date depuis les années 60, l'OAS, etc.
Et vous dites donc 2001, c'est quoi 2001
et 2001, c'est le 11 septembre. C'était, si tu veux, en vérité, quand il y a eu la chute du mur de Berlin, la chute du communisme, certaines entités ont trouvé un nouvel ennemi, parce que c'est comme ça que tu arrives à maîtriser le peuple en leur faisant peur. Le nouvel ennemi, c'était l'islam radical. Alors moi, je dis de ce fait, l'islam n'est pas radical, donc il y avait des radicaux fondamentalistes religieux qui ont accaparé une idéologie adossée à une religion, et pour les fachos de la terre entière, c'était très simple, c'était l'islam et l'ennemi de l'Occident.
Amin Sa, et après je veux parler.
Oui, c'était des agents de la CIA.
Ou alors on passe à la crise.
Non, moi je vais pas revenir très brièvement, je vais pas revenir sur ce qui nous amène à cette situation d'aujourd'hui. La seule chose que je regrette, c'est que c'est le déni qui existe aujourd'hui dans ce pays vis-à-vis de ces discriminations. Il se passe pas un jour, et je suis encore une fois avare de médias, avare de radio, etc. Il se passe pas un jour pour qu'il n'y ait pas sur une radio ou sur une chaîne de télévision où on insulte les Arabes, les musulmans, les migrants, les Noirs, les Africains.
Mais non, vous le traitez régulièrement, ça, c'est récurrent chez vous dans vos, vos réseaux sociaux.
Mais c'est parce que c'est aujourd'hui ce qui clive le plus dans le pays.
Et absolument.
Ce qui est dommage, c'est le déni qu'il y a derrière tout ça. Et tout à l'heure, la question qui était posée, c'était comment on fait pour qu'il y ait un traitement équitable entre tous.
Oui.
Et ben, il y a qu'une seule solution, c'est le droit.
Alors,
le droit,
messieurs,
et rien que le droit.
Messieurs, s'il vous plaît, je voudrais qu'on passe au second sujet. C'est celui de la crise des agriculteurs, pardon, des auditeurs. Oui, aussi. La crise des auditeurs. Il y a aussi une crise des auditeurs, vous avez raison. Alors, est-ce qu'il y a un divorce entre Emmanuel Macron et les syndicats?
Alors, moi, où j'étais, c'était la Confédération
Paysanne,
CR, en fait. Les Bonnets Jaunes.
C'est vrai révolutionnaire. Voilà.
Rural. Donc eux, ils ont clairement dit qu'ils ne souhaitaient plus discuter avec aucune personne du gouvernement, que c'était des beaux discours. En fait, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ce qu'a fait Macron, c'est ce qu'il a fait avec les Gilets jaunes.
Oui. Donc le grand débat, c'est annulé.
Blablabla.
Le grand débat, il est annulé.
Le débat de demain, il est annulé.
Parce que personne n'y va.
Macron, il avait prévu de faire son show dans un stand avec 500 personnes autour de lui. Il s'est dit, je vais me faire huer. Il est pas bête. Je
veux dire, même ses
communicants lui ont dit, écoute, c'est bon, annule. Bon, à mon avis, demain,
ça va être chaud pour
lui. Pense que ça va pas être de tout repos. C'est-à-dire que ils ont renforcé la sécurité. J'y suis passé, donc la sécurité.
Alors racontez-nous justement.
Ils ont mis des barrières partout.
Ouais.
Les gens vont devoir passer dans des corridons de barrières. Être fouillé en amont du salon de l'agriculture, à l'intérieur du salon de l'agriculture, après les portiques.
Cordon de sécurité.
Y a des CRS partout, ils vont boucler le quartier entier pour une visite d'un salon qui est normalement l'un des plus beaux salons chaque année.
Oui, c'est vrai.
De l'agriculture.
On le fait régulièrement.
Je veux dire, Macron, depuis qu'il est au gouvernement, entre les gilets jaunes, le Covid, la réforme des retraites. Et maintenant, les agriculteurs
et la loi anti-immigration.
Très en colère.
Oui. Les écolos.
Moi, je peux te dire que les mecs que j'ai vus aujourd'hui,
ils sont
en colère.
Ils sont en colère.
Ils sont prêts à tout bloquer, rester sur place s'il le faut. Et ils n'ont pas peur de ce qui va se passer.
Maître David Limeskid.
J'adhère à ce que John vient de dire. Hein, les
ça va être chaud, donc.
Ce sont nos nourriciers. Faut pas l'oublier. C'est eux qui nous nourrissent. Et évidemment, faut les soutenir. Effectivement, demain, ça va être tendu pour Emmanuel Macron. On se demande ce qui va se passer. On sait qu'il va se passer quelque chose, mais on ne sait pas.
Aminsa, et ensuite enfin, Philippe Nadjiboyek.
Moi, je serai Emmanuel Macron, j'annulerai même ma visite.
Exactement.
Ce serait mieux que de mobiliser 100% des policiers de ce pays pour le protéger. Franchement, et ce serait
un échec.
Bah, évidemment, mais tout son mandat est un échec. Le premier comme le second.
Clochette.
Je peux te dire que
mais tu sais tout ça a commencé ce matin avec la FNSEA qui explique qu'elle ne veut pas aller parce que il y a comment s'appelle cette organisation cette ONG soulèvement de la terre.
C'est factuel. Hein,
alors c'est un prétexte, mais d'ailleurs moi j'ai trouvé bizarre que dans un débat on refuse de débattre avec des gens qu'on n'aime pas ou dont on n'est pas d'accord. Enfin, mais ça c'est les positions de la FNSEA pour ne pas aller plus loin dans la confrontation avec le président de la République.
Ils sont en train de perdre leur base.
Et par ailleurs, la FNSEA ne sont pas les représentants des agriculteurs. Ils sont représentants d'une partie des agriculteurs, mais il y a d'autres confédérations, d'autres syndicats qui portent aussi la voix des agriculteurs.
Ils sont en train de perdre leur base.
Faire un débat quand c'est ultra chaud comme ça, c'est pas très intelligent. Je sais pas qui l'a conseillé au début. C'est vraiment en plus
les. Mais je crois que les McKinsey, ses conseillers, ses conseillers justement. Je pense que ça s'est très mal passé avec ses conseillers.
C'est McKinsey
de toute façon. Il n'écoute personne.
Mais le souci c'est McKinsey. Aujourd'hui, les agriculteurs ils veulent des vraies propositions. Ils veulent pas de débat. Ils sont à bout de souffle, à bout de nerfs. Et ça peut très mal se passer. Moi, je dois y aller demain en famille en plus. Mais je vais y aller. J'ai un parapluie. Pour protéger.
Ils ont prévu. Moi, ce que je sais, c'est qu'ils ont prévu du fumier et du lisier.
Bon, enfin, il y a quelques stands que je vais pas faire, mais je vais surtout sur le stand des chevaux parce que je dois débattre avec. Je dois rencontrer le président de la Ligue Île-de-France d'équitation.
Merci, messieurs.
Et donc, on va y aller.
C'est un moment important. Philippe Nadjiboyek, qui est conseiller régional. Merci à l'élu de la Courneuve, Aminsa. Merci, au plaisir, messieurs.
Merci à vous.
Merci à David Libeskid. Merci infiniment. Merci à John.
Mad Max Barlow sur TikTok.
Ouais. Voilà. C'est mais il a raison, il fait sa promo.
Mad Max Barlow.
Barlow.
John Barlow.
Il a 15 000 followers.
John Barlow. C'est ça. Faites votre promo aussi.
Moi, c'est assez facile. Moi, c'est Aminsa. Mon prénom et mon nom.
Ton TikTok n'avait pas été fermé une première fois.
C'est un deuxième.
À très bientôt.
À très bientôt, Adil.
Il a été
merci.
Fermé une première fois, oui, effectivement.
Merci pour tout, Adil.
Mais grand plaisir. Solala, la réalisation. Bilan Edman, 20h. Vanessa, 21h. Les programmes continuent tout le week-end. À lundi, avec autant de plaisir, je peux vous l'annoncer. Alors, tiens, on va faire une émission un peu spéciale. Une heure de direct avec Marco Mouli, vous voyez qui c'est ?
Oh bah oui, c'est mon cousin.
Si, il faut, c'est intéressant. Le phénomène est intéressant. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons.
Il y a des contradicteurs ?
Non. Je veux m'intéresser à certains points, justement. Et il m'a dit, tu poses toutes les questions que tu veux. Mardi prochain, à 19h.
On va écouter.
Interview exclusive.
On va venir même.
Bah oui, si vous avez envie.
Marco,
mais bon. Très bon week-end à lundi avec autant de plaisir.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.